Voilà, dans le cadre de Résistance, donc un entretien avec Jérôme Semla, qui a réalisé le film Citizen Cam, que j'avais retenu dans ma mémoire comme s'appelant Iceland. Mais en fait, Iceland, on verra dans le film, c'est une troupe de théâtre qui détourne un petit peu le sujet du film, qui parle de caméras de surveillance. Alors je vais te laisser un peu parler de ce film, et surtout pourquoi tu l'as fait, et tu nous l'as présenté tout à l'heure comme un film paranoïaque.
C'est exactement ça. C'est le film est né de d'un voyage qu'un ami et moi-même avions fait en Islande un an avant le début du tournage. C'était un voyage de tourisme pour visiter la capitale Reykjavik. Et pendant toute la durée de ce voyage, avec cet ami, on a imaginé qu'on était surveillé, qu'on était observé, qu'on était sous le regard de plein de caméras. Et en discutant un petit peu avec les Islandais pour essayer de comprendre d'où nous venait ce sentiment, on a eu un petit peu confirmation, c'est-à-dire qu'il y a un système de surveillance qui existe et dont il nous a fallu prendre conscience.
Et donc c'était en 1999, à l'époque. Alors donc je disais, c'est que ce film a été tourné en 1999, à l'époque, donc contrairement aujourd'hui, c'était pas si répandu que ça les caméras, et peut-être c'était pour ça que les quelques caméras que vous aviez vues vous ont donné ce sentiment de parano.
Oui, absolument, mais surtout, je pense qu'on a tendance un peu à oublier les choses. Les caméras de surveillance étaient déjà présentes, il y en avait déjà beaucoup, un peu partout. Alors, pas autant qu'aujourd'hui, mais disons que entre 99 et aujourd'hui, le système s'est agrandi, s'est développé, s'est devenu effectivement beaucoup plus massif.
Et dans l'espace public, surtout.
Et dans l'espace public. Mais encore une fois, moi, je sais plus exactement où se situe la frontière. L'espace public continue à exister, évidemment. Mais entre l'espace public qui est pris en main par des sociétés privées dans des limites qui sont difficiles à définir et l'espace privé, mais dans lequel on continue à être malgré tout sous surveillance à travers Internet, à travers des tas d'autres systèmes qui sont aussi bien l'audimat, les appels téléphoniques de différentes sociétés pour essayer de nous vendre des choses, etc. Il y a un nombre de données et un nombre de choses qui nous sont prises et qui permettent une forme de surveillance et qui font que c'est plus on ferme la porte de chez soi et puis on est tranquille.
Ma remarque n'était pas tellement sur l'individuel privé, mais sur le fait que on rentrait dans une banque, il y avait une caméra, parce que si jamais, il y avait un consulat, c'était les seuls endroits où il y avait des caméras au bord des rues, quand il y a un consulat ou une ambassade, c'est ça qu'on connaissait. Maintenant, il y a une rue commerçante, n'importe quelle rue, un parking banal, etc. Maintenant, il y a des caméras. C'est dans ce sens-là, généralisation. Voilà, donc on disait, bon, quand on allait dans une banque, bon, voilà, et en plus, elle ne marchait pas forcément, quoi. Mais...
En tout cas, depuis entre 99 et aujourd'hui, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans tous les débats que ce film a pu susciter, les réactions sont à peu près les mêmes. Je n'ai jamais rencontré de gens qui défendent, puisque c'est en général des politiciens ou des gens très très à droite et qui n'ont pas beaucoup réfléchi à la question, qui vont défendre les caméras de surveillance. Sinon, la plupart des gens sont contre. Et on remarque simplement que ça n'a pas empêché leur accroissement.
Alors que le film présenterait presque cette généralisation des caméras, je ne dis pas comme quelque chose de sympa, mais il y a du ludique, on peut jouer avec, etc.
Quoi. Ouais.
Ce film n'est pas un film catastrophique, mais ce qu'il dit en arrière-plan semble l'être.
Oui, exactement. C'est-à-dire que ça permet simplement de réfléchir à tout ça, à réfléchir évidemment principalement aux dérives possibles, en considérant ce qui est pour moi une réalité, c'est qu'au sein d'une société démocratique, même quand les règles sont affichées, et c'est le cas pour les caméras de surveillance, les gens qui regardent les images de caméras de surveillance, qui les implantent, etc., doivent répondre à des règles. Toutes les règles sécuritaires, toutes les lois qui sont passées demandent d'être suivies. et ils sont bordés en général, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Et ce qu'on voit à chaque fois, c'est qu'il y a des dérives. Et c'est que ces outils technologiques qui servent à surveiller, à protéger en premier lieu, servent également à d'autres choses, ont d'autres fonctions.
Et dans le film, disons le VRP de ce système-là, le commissaire, lui le vend très bien. Il dit, par exemple, surveiller, c'est veiller, on veille sur les gens. Et puis, surtout, il y a cette idée que tout le monde peut s'accaparer l'outil, c'est-à-dire que tout le monde sait, c'est pas dans le secret, tout le monde peut avoir ses images. Donc, c'est presque, tu disais, bon, ben, on vous l'offre, c'est à portée de tout le monde. Et en fait, ça suffit pas, en démocratisant un moyen qui ne l'est pas, ça suffit pas, quoi.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est un problème insoluble. À partir du moment où on met le doigt dedans, il n'y a pas réellement de façon de s'en sortir. Et ça, c'est pour une raison qui est relativement simple, qui est malheureusement pas beaucoup étudiée, mais ça tient simplement à l'être humain et à son mode de fonctionnement et à ses désirs. Et ce contrôle, puisqu'on parle là de contrôle, malheureusement, j'ai envie de dire, moi ce que je remarque depuis pas mal d'années maintenant où je m'interroge sur tout ça, c'est qu'on le désire, ce contrôle. On le redoute, on le critique, on s'en méfie évidemment, mais la façon qu'on a de lutter contre, dans la majorité des cas, est une façon plutôt molle, et plutôt résignée au bout du compte. À un moment donné, je parlais d'Internet et je disais que c'est un peu comme les conditions d'utilisation de Google, de iTunes pour Apple ou pour d'autres sites. Personne ne lit ce qui est écrit. On accepte tous, on clique tous sur accepter parce que l'outil amène tellement de possibilités que ce dont il nous prive, bah, on préfère s'en accommoder. Pour les caméras de surveillance, on va voter pour des gens qui vont mettre en place ces caméras de surveillance. Ils vont nous expliquer que tout est pris en main, qu'il n'y a absolument aucun problème. Et lorsqu'il y a des problèmes, on va hausser le ton, on va dire des choses, etc. Mais on continue à accepter ça. Et c'est une des choses qui est dite dans le film. Une personne qui est contre ces caméras de surveillance le dit, et elle en est très malheureuse. Elle dit que si jamais il y avait un référendum pour savoir si la chaîne de télé utilisant les caméras de surveillance et ce système de surveillance devait se poursuivre ou non, si un référendum avait lieu, la majorité des gens seraient pour que ça continue, pour continuer à ce qu'il y ait ces caméras de surveillance.
Oui, parce que là, dans le film, ce que tu joues, c'est que ces caméras de surveillance deviennent une chaîne de télévision,
Voilà, absolument.
accessible, tout le monde ouvre sa
Absolument.
télé et regarde.
C'est un système démocratique, c'est-à-dire que le chef de la police qui a eu cette idée a voulu montrer, et on parle de l'Islande, donc d'une vraie démocratie, a voulu montrer que dans un système démocratique, il fallait ouvrir le plus possible les choses et être le plus transparent, c'est le mot qu'on emploie à tous les coups, le plus transparent possible. Et
C'est le piège.
son idée, ça a été donc de dire, ben voilà, on a tellement rien à cacher que ben, les images qu'on reçoit aux centrales de police, qui
On
viennent de
vraiment.
ces caméras de surveillance, vous allez tous les voir. Et ça paraît être un argument implacable, évidemment, de dire voilà, on n'a absolument rien à cacher.
On
Mais le
s'aperçoit.
résultat de ça, c'est que chaque personne devant son poste de télé devient un vigile, devient un policier, en train d'observer les autres et prêt à réagir, et prêt à dénoncer, et prêt à participer au travail de la
Ou
police.
même à ne pas sortir du tout. On a une retraitée qui dit, j'ai plus besoin de sortir parce que quand même on va arriver sur cette histoire quand même d'image parce que les gens croient ce qu'ils voient. Or, il y a des gens qui s'amusent à faire des fausses bagarres, des faux trucs et donc on voit en direct une bagarre, elle n'est pas vraie quoi en fait. Et là aussi ça pose des questions sur quand on regarde à travers un outil, qu'est-ce qu'on y voit? La petite retraitée qui veut plus sortir, elle n'y voit pas la vie. Bon, elle dit, je sais le temps qu'il fait parce que je vois comment les voisins s'habillent, etc. Mais on sent bien que là, il y a quelque chose. Faire confiance à l'image, c'est
C'est la
pas.
thématique qui m'intéressait le plus, c'était cette manipulation des images. C'était moi, en tant que réalisateur de film, j'avais envie d'interroger ça, j'avais envie de voir jusqu'où il était possible d'aller. Et effectivement, ces images peuvent être manipulées, que ce soit comme n'importe quelle image,
Bon, on l'a vu, en justice, les vidéos ne font pas foi acte, puisqu'elle est, en plus avec le numérique, peut être modifiée, on peut rajouter un chapeau à quelqu'un, on peut les trafiquer, quoi. Donc même en justice, je crois qu'elles ne sont pas valides. Hein.
Sauf que ça bouleverse tout. Sauf que ça bouleverse la société, ça bouleverse la façon dont on considère les choses. Et une image, qu'elle soit vraie ou pas, a un impact. Et bon, s'il y a une chose à dire, c'est simplement qu'il y a une éducation à l'image, aux différents médias d'une façon globale, qui est indispensable.
Pour argent comptant, voilà, c'est ça.
Ouais, qui est indispensable, c'est-à-dire qu'il y a le, enfin bon, pour dire une chose un peu positive, moi j'ai véritablement le sentiment que pour la majorité des gamins aujourd'hui, dans nos sociétés, en Occident en tout cas, ça va très très vite. Et la part entre réalité et réalité d'une image brute et image trafiquée se fait de plus en plus vite. On a vu tellement, grâce beaucoup à Internet, tellement d'images fausses, d'images manipulées. Les gamins maîtrisent de plus en plus justement eux-mêmes les médias, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est un bouleversement.
Et qu'est-ce qui va vite ? Ils prennent compte ?
Ils prennent conscience de,
du fait qu'il y a un doute ?
Exactement, qu'une image peut être fausse. Parce qu'il y en a tellement, il y a tellement d'images, et sur Internet, il y en a tellement, il y a tellement de faux, et de faux qui sont très très vite démentis, simplement parce que les plus jeunes aujourd'hui maîtrisent, filment tous, ont tous une caméra sur eux, et sont tous capables d'utiliser des logiciels de retouche d'images, que il y a beaucoup moins de naïveté, j'ai l'impression. Ensuite, de dire c'est important ou ça l'est pas pour eux, où c'est banal, ça a peut-être moins d'importance sur un plan politique, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, par rapport à ça, moi je vois ça en permanence. Sur Internet, des gens qui ont ce regard qu'on peut qualifier de vigilant ou de parano selon les cas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de naïveté. Alors peut-être que c'est moi qui ai envie de croire ça, mais je me rends compte simplement que le simple fait que les jeunes maîtrisent les outils technologiques, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Les gens, on leur donnait des images, ils prenaient ces images dans la gueule et puis ils n'avaient absolument aucun jugement dessus.
Comme à la naissance de la télé, vu à la télé, ça pouvait
exactement,
être...
Exactement. Alors que maintenant, les images, c'est eux-mêmes qui les fabriquent de plus en plus. Il y a des choses comme YouTube, il y a un nombre invraisemblable de sites, de sites communautaires sur lesquels les plus jeunes peuvent mettre des images.
Ils savent qu'ils font de la mise en scène.
Ils savent qu'ils font de la mise en scène. Ils connaissent de plus en plus le langage cinématographique et ils savent eux-mêmes comment on manipule ou pas ces images. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un petit espoir que j'ai.
Et par rapport, moi, je trouve la force de ce film, c'est quand même, comme je l'ai dit, 1999. En fait, il est toujours d'actualité. Je veux dire, sur les questionnements que tout ce qu'on a dit là, il est toujours fonctionnel, quoi. Et tu le présentes, le public réagit toujours pareil. Ouais. Il n'y a pas d'évolution dans la réaction du public.
Non, il n'y en a pas. Les gens sont toujours aussi choqués. Et en même temps, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ce choc et ce rejet de ce système de caméras de surveillance et d'emprise de la surveillance dans nos sociétés, les gens n'en veulent pas et réagissent de la même façon en 99 et aujourd'hui, donc 16 ans après.
Il y a un refus de principe, on va dire, c'est ça.
Sur le principe, et tout le monde est d'accord. Et en même temps, on voit que ça change absolument rien. Il y a quelque chose de très sûr que ce film m'a appris, je m'en doutais un petit peu avant, mais là, ça l'a confirmé. C'est sur... Sur la vanité des images et des films qu'on est capable de faire. Moi, je me suis rendu compte donc très très vite que c'était super important, qu'il fallait continuer à dire des choses, à exprimer des choses, à essayer de dénoncer des choses et qu'en même temps, il ne fallait pas se leurrer.
On ne change pas tout avec un film.
Voilà. Voilà.
Mais quand même, le fait que ce film a quand même une importance. Alors, c'est quand même un court, hein, c'est 26 minutes. Mm-hmm. Je ne sais pas comment il peut circuler, mais c'est quand même un film très important qui dit plein de choses.
C'est gentil de dire ça. Ouais. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est qu'il y a eu ensuite, il y a eu pas mal de rumeurs qui ont circulé autour du film. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, j'entends parler du film par des gens qui n'ont absolument pas vu le film et qui juste ont retenu des tout petits bouts, des petites idées du film. Et c'est assez rigolo, ça.
Mmh. Ah oui, donc comme quoi, il faut qu'on se méfie des images.
Absolument.
Mais là, c'est pour poursuivre notre entretien. Donc, on arrête de parler de Citizen Kane qui est un clin d'œil aussi quand même au titre du film d'Orson Welles, c'est ça.
Ouais,
voilà,
ouais,
c'est
ça. Ça parle du le pouvoir, personnage, le pouvoir, quoi, voilà, le personnage principal est une sorte de roi des médias en Islande, en tout cas,
oui.
est devenu grâce à cette chaîne de télévision
Il se prend pour Dieu,
qui
quoi.
devient voilà, qui devient super importante. Et puis c'était aussi, en fait, il y a deux hommages dans le film qui sont assez clairs et assez affichés. Un à Orson Welles, évidemment, qui a fait un film qui est assez peu connu, mais qui devrait être un peu revu, qui est assez étonnant, qui s'appelle F for Fake, F pour faux, et qui voilà, qui est un film intéressant à voir, en dehors du titre, donc qui directement vient de Citizen Kane. Et il y a un autre hommage dans ce film à un auteur qui est super important pour moi, dans l'éducation que j'ai pu avoir, et qui est un auteur de science-fiction qui s'appelle Philip K. Dick,
Oui,
et
alors
qui est
Philippe,
un
c'est
auteur.
anglais, c'est ça,
C'est
non?
un Américain.
Ouais, et ça, c'est américain, et ça s'écrit K.
K, c'était l'initiale de son deuxième prénom, qui était
Prénom.
Kindred, et Dick, D-I-C-K,
Ouais.
qui est. Voilà, mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît sans le connaître. Tous les bouquins qu'il a pu écrire sont achetés par Hollywood. Il est mort en 82.
Ont été
Et
adaptés alors.
il est mort l'année de la sortie de Blade Runner. Et Blade Runner vient
D'un de ses
d'une
livres.
histoire qu'il a écrite. Ouais. Et ensuite, Minority Report, c'est lui. Total Recall, c'est lui. Et puis, voilà, il y a plusieurs autres films qui ont été faits à
Donc ça
partir de.
explique un peu l'ambiance qui a
Bah,
prémis,
il y a
qui
des
a.
films qui ne sont pas directement associés à Philip K. Dick en tant que tel, mais qui viennent directement, malgré tout, de son œuvre, comme Le Truman Show,
Ah oui.
qui parle là aussi beaucoup de surveillance,
Ouais.
et un film comme Matrix aussi, qui parle de contrôle, qui parle de contrôle total, là, pour le coup, de l'être humain, et aussi extrêmement inspiré de l'œuvre de K. Dick.
D'accord. Et donc après, parce que donc après toi, tu as continué à faire des films. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues dans la même veine sur le contrôle ou qu'est-ce que tu as fait comme
Alors,
travail?
pas du tout, pas du
Pas
tout
du
dans
tout.
cette veine-là. J'ai fait des films un peu dans tous les sens, des documentaires pour la télévision, pour un peu n'importe quelle chaîne, que ce soit France Télévisions, Arte ou d'autres, enfin, du groupe Canal+. Donc voilà, il y a pas beaucoup de logique. Le but du jeu, lorsqu'on est réalisateur de films documentaires, comme ça, un peu mercenaire, un peu franc-tireur, bah c'est de. Je trouve que c'est quelque chose d'assez rigolo. Plutôt que de proposer moi des films et d'être un auteur à 100% des sujets qui m'intéressent et qui me motivent, je trouve ça assez confortable d'accueillir des propositions et de, quel que soit le sujet, d'en faire une œuvre personnelle. Et parfois totalement raté, et ça m'est arrivé plusieurs reprises de faire des films dont je suis pas forcément très fier.
Et d'autres que tu
Et
cherches, du coup, sur
d'autres, ça
quel thème,
va.
par exemple?
Là, je travaille beaucoup sur des films scientifiques en ce moment. Donc il y a un peu des histoires de contrôle qui reviennent, il y a un peu des histoires sociétales, en tout cas de questions sociétales, de questions éthiques qui sont posées. J'ai fait toute une série sur les nanotechnologies, par exemple. Et là, on aborde des questions liées à la surveillance, évidemment. Et là, je suis en train de terminer une série avec un co-réalisateur qui s'appelle Charles-Antoine de Rouvre. On est en train de terminer une série sur la biologie de synthèse, qui est une technologie ou une technoscience de pointe. C'est le stade qui suit les OGM, disons. C'est une manipulation là du vivant à l'extrême. Et qui peut aller jusqu'à la fabrication du vivant à des fins utiles et rentables par des ingénieurs principalement. Voilà. Donc on est en train de faire 3,52 minutes pour France 5 là-dessus. Et je m'apprête à démarrer un film historique, donc vraiment rien à voir, sur le thé et sur le vol par les Anglais du thé en Chine. Au 19e siècle,
Un
donc au
peu
milieu
histoire
du
coloniale quand
19e,
même.
absolument,
Oui, d'accord.
absolument. Et on parle de la première, des premières globalisations, mondialisations et des premières grosses méga corporations qui ont qui était absolument sans scrupule. Là, il s'agit de la compagnie des Indes, anglaise, britannique, et qui avait le pouvoir d'un gouvernement quasiment, et qui était un empire dans l'empire.
Le brevetage des plantes, ça date pas de Monsanto, quoi.
Là,
il y avait des précurseurs.
Voilà, on peut dire ça. Ils ont pillé déjà les colonies, puisque la seule chose qui leur échappait et qui était extrêmement demandée, la seule plante qui leur échappait, c'était le thé. Ils avaient un peu de thé, mais ils ne savaient pas comment le faire. Ils n'avaient pas un thé de la même qualité que les Chinois. Et les Chinois résistaient. Ils leur vendaient de l'opium. L'Angleterre était le plus grand dealer de tous les temps, puisqu'ils vendaient de l'opium en Chine contre le thé. Ils faisaient pousser de l'opium en Inde, qui était leur territoire, qui revendaient en Chine. Ils n'arrivaient pas à faire pousser du thé en Inde non plus, donc ils l'achetaient en Chine. Et le thé revenait en Angleterre et en Occident, et c'était principalement du thé noir, donc il fallait du sucre, mais le sucre venait directement des colonies britanniques des Antilles, avec la canne à sucre, donc c'était tout bénéfice. Voilà.
Ça, c'est un autre sujet.
Voilà, c'est un autre sujet.
Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, ou par rapport au fait de présenter ton film ici à Résistance, est-ce que ça t'a apporté quelque chose?
C'est super important. C'est super important quand on est réalisateur, je ne sais pas comment dire. Il y a plusieurs, en tout cas pour moi, d'une façon très personnelle, il y a plusieurs plaisirs dans ce métier. Il y a pas mal de contraintes. Pas mal de contraintes, juste pour en dire un mot, simplement parce qu'on travaille avec des chaînes de télévision, avec des diffuseurs. On n'est pas libre à 100%. On essaie de se débrouiller, de trouver des solutions pour essayer d'exprimer le maximum de choses personnelles. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Mais il y a quand même des grands plaisirs dans ce métier.
Mais ce film-là, toi, tu étais autonome, là.
Pas totalement. Je me suis bagarré, on m'a laissé carte blanche quasiment à 99,9%, donc ça allait. On arrive à trouver des solutions, toujours.
Donc le plaisir de le faire, tu dis
Pas tellement le plaisir de le faire, non, c'est vraiment du boulot. Ah, le plaisir, c'est de voyager, déjà. On a cette chance-là, de pouvoir aller dans des endroits et de pouvoir voyager. C'est pas donné à tout le monde, et c'est quand même pas mal. Le deuxième, c'est de rencontrer des gens. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans le documentaire, en général, on rencontre les meilleurs dans leur domaine. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai besoin pour les nanotechnologies de parler de physique quantique et de nanoparticules, je vais rencontrer des prix Nobel à la chaîne. Et je vais voyager à travers le monde pour aller rencontrer ces gens-là. Et donc ça, c'est quand même d'une importance colossale. Et puis la troisième chose, c'est de pouvoir, alors que les films sont faits pour passer dans une fenêtre à la télé une fois, deux fois, et puis pas plus, c'est quand même là aussi une chance de pouvoir ensuite accompagner ces films dans des festivals, et de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir communiquer des choses et partager des choses. Voilà, ça c'est les trois plaisirs principaux que j'imagine.
Et puis pour moi, ça a été vraiment un plaisir, puisque pour moi, ce film Citizen Cam, vraiment, c'était un film qui m'a marqué, film court, mais qu'on essaie de diffuser. Et donc, le hasard de cette rencontre, et d'avoir appris aussi toute la logique qu'il y a autour de la formation d'un tel film, quoi, la création de ce film. Quoi. Mmh.
Ouais. Le film, et je ne devrais pas le dire, parce que normalement, quand on a un producteur qu'on aime bien, on essaie d'éviter, mais le film est visible sur YouTube, il suffit de taper son titre. Oui. Donc c'est super simple.
De toute façon, il circulait.
Il circule un peu partout, et il est facile à trouver en ligne. Ouais. Donc c'est très facile de le voir.
Merci beaucoup alors.
Merci à vous.